Il faut le voir pour le croire, dit-on. Et en cela, nous en sommes tous à peu près persuadés. Nous sommes donc tous un petit peu comme Thomas, cet apôtre qui disait que s'il ne voyait le Christ ressuscité, il ne croirait pas. Et je comprends assez cette réaction. Je pense effectivement que nous ne voulons pas nous faire abuser quand nous disons cela. C'est pour dire que ce que nous voulons, c'est croire des choses certaines, avoir des choses objectives, ne pas croire sans savoir exactement en quoi l'on croit, et ne pas se laisser abuser par des propos qui nous voudraient nous faire croire dans des choses qui n'existent pas ou qui n'ont aucun fondement, aucune réalité. Et donc je crois que ces désirs de voir pour croire ne sont pas absurdes, parce que justement je crois que la foi n'est pas l'absurde. Je crois que la foi, ce n'est pas la crédulité naïve. Vous savez qu'en hébreu, dans la langue de la Bible, la foi, ça se dit aman, et aman, cela veut dire ce qui est certain, ce qui est ferme, ce qui est sûr, ce qui justement ne fait aucun doute. Et donc la foi, ce n'est pas de croire malgré les apparences à quelque chose d'absurde. La foi, c'est au contraire de construire sa vie sur quelque chose de sûr et de certain. Et pourtant, Jésus a raison en même temps de dire qu'on ne peut pas voir pour croire. C'est ce qu'il dira à Thomas, il lui dira « parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ». Et donc Jésus a raison de dire qu'on ne peut pas voir pour croire, et tout simplement pour la raison suivante, c'est que l'objet de la foi, ce n'est pas le visible, mais c'est l'invisible. Et en ce sens, j'aime bien cette phrase du Petit Prince, souvent citée, qui dit « l'essentiel est invisible pour les yeux ». Et justement, l'objet de la foi, l'objet de la quête spirituelle et de la quête de la religion, c'est cet invisible pour les yeux qui est essentiel. Le visible, on sait ce que c'est le matériel, c'est le physique. Le visible, c'est ce qui peut s'acheter, ce qui peut se vendre, ce qui peut se mesurer. Au contraire, le spirituel, c'est l'invisible, c'est le transcendant, c'est l'éternel. Et la foi, c'est précisément l'attachement à tout ce qui est au-delà du visible. La foi, c'est l'attachement à ce qui ne peut ni s'acheter ni se vendre. C'est la quête de ce qui ne se voit pas. C'est la quête de ce qui ne se mesure pas par des mesures humaines. C'est la quête de ce qui est justement indifférent au monde matérialiste. C'est la quête de ce qui n'est pas coté en bourse. C'est la quête de ce que l'on ne peut pas prendre en photo et justement de ce que l'on ne voit pas. Et donc, justement, dans le chapitre 14 de Jean, quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit « Ce Saint-Esprit vous sera donné, mais le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas. » Ce que Jean, dans son évangile, appelle le monde, c'est le monde matériel, c'est le monde matérialiste, justement. C'est le monde non spirituel. Et il dit bien que le monde matérialiste ne peut rien comprendre au Saint-Esprit parce qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire que justement, il n'est pas visible. Et un certain nombre de personnes sont tellement attachées au visible qu'ils ont du mal à comprendre qu'il puisse y avoir dans notre existence des réalités qui soient invisibles. Alors la foi, c'est justement l'attachement, je crois, à ce monde de l'esprit. La foi, c'est la quête de l'invisible. Comme le dit Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, il dit « Pour nous, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les visibles sont pour un temps, et les invisibles sont éternels. » Donc vous voyez, je crois que dans la foi, il n'y a pas d'absurde ou d'irrationnel. La foi, ce n'est pas de croire malgré les apparences, c'est de croire à ce qui est au-delà des apparences. La foi, ce n'est pas de renoncer à ce qui est certain. La foi, c'est au contraire être dans une autre dimension. Dans le même ordre d'idées, le grand scientifique, Laplace, avait dit, croyant balayer de cette manière la question de l'existence de Dieu, il a dit donc « Dieu, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Sous-entendu, je n'ai rien à faire de Dieu et il n'est d'aucune utilité dans mon travail de scientifique et de physicien. » Et il croyait par là même évacuer la notion même de Dieu. Mais en fait, il n'avait pas compris que disant cela, Il a fait la plus belle définition qui soit de Dieu lui-même. Bien sûr qu'un scientifique n'a pas besoin de l'hypothèse Dieu, parce que par définition, Dieu est ce qui n'est pas scientifique. Non pas ce qui s'oppose à la science, mais ce qui la dépasse. Dieu n'est pas de l'ordre de la physique, Dieu est de l'ordre de la métaphysique, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la physique. Alors peut-être que, je dirais, la grande ligne de démarcation entre les croyants et les incroyants, elle est là, de savoir est-ce que la réalité se réduit au visible, est-ce que la réalité se réduit à la matière, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse, qui transcende la matière, est-ce qu'il y a de l'esprit, précisément. Et je pense que, précisément, il y a dans l'homme une dimension transcendante. Il y a dans l'homme une dimension mystérieuse, insaisissable. Je pense qu'il y a dans l'homme quelque chose qui fait qu'il est plus qu'un simple amas de cellules qui se serait regroupé d'une façon hasardeuse à la suite des millénaires pour former un organisme qui finalement ne sert à rien, ne vient de nulle part et ne mène nulle part. Je crois qu'il y a dans l'homme quelque chose qui transcende sa matière animale, qu'il y a justement quelque chose de l'ordre de l'esprit, et cette chose de l'ordre de l'esprit, c'est ça que j'appelle le divin. Et ce divin, il est insaisissable. On ne le voit pas sur les photos d'identité. Les médecins, les chirurgiens n'y connaissent rien, ne le voient pas et ne le trouveront jamais. On peut disséquer à la morgue tous les cadavres que vous voudrez, on ne trouvera pas l'esprit, parce que l'esprit, il est ailleurs, il est invisible, il est justement insaisissable. Et donc Laplace avait raison. Oui, Dieu, il n'a pas besoin de cette hypothèse, parce que Dieu, il est invisible. Dieu n'est pas dans la physique, Dieu est tout à fait au-delà et n'a rien à voir avec ses définitions. Dieu étant l'invisible par définition, en lui, il n'y a rien à voir, mais il y a tout à croire. Et c'est justement par le croire, c'est-à-dire par l'adhésion et par la quête de ce qui est précisément l'invisible, que l'être humain devient humain et cesse d'être un simple mammifère. Et pourtant, il est vrai, l'homme reste fondamentalement attaché au visible par sa nature. Le spirituel, c'est l'invisible, je vous l'ai dit, c'est l'immatériel, c'est l'éternel. Et nous avons tous un travail difficile à faire pour apprendre à voir l'invisible, pour apprendre à quêter justement au-delà du matériel, au-delà du concret. Ce qui est extraordinaire dans les récits bibliques, c'est de voir tout le travail que font les disciples depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, justement pour essayer de se détacher du visible et passer du visible à l'invisible. Au commencement, ils sont dans le visible. Ils côtoient Jésus comme un être de chair et de sang, ils le voient comme un maître instructif et aimant, et justement, ils doivent passer progressivement à une foi qui n'est pas simplement d'avoir un bon compagnon intéressant et sympathique, mais qui est d'adhérer à une vérité transcendante, à une vérité spirituelle et invisible. Alors on les voit à Pâques. À Pâques, les disciples se précipitent au tombeau, ils veulent toucher, ils veulent voir, même si ce n'est qu'un cadavre, ce n'est pas grave, il y a quelque chose à voir, et ils sont encore obnubilés par le concret. Mais voici que ce qu'ils trouvent, c'est un tombeau vide, c'est-à-dire justement un endroit où il n'y a rien à voir. Et ça, c'est assez intéressant parce que on nous dit en Jean 20, verset 3, que Pierre et Jean courent au tombeau. Et que là, Jean attend un peu, Pierre entre dans le tombeau, puis Jean entre à son tour. Et on nous dit que Pierre entre dans le tombeau et il voit qu'il n'y a plus rien. Ensuite, Jean entre dans le tombeau. Et là, le texte a une chose extraordinaire. Il dit « Il vit et il crut ». Alors la question que posent tous les bons théologiens, c'est de dire « Il vit quoi ?» Eh bien, il vit rien, puisque dans le tombeau, il n'y avait rien. Et donc, c'est justement en ne voyant rien qu'il croit. Il croit parce qu'il est tout à coup libéré du visible. Et il comprend que dans le tombeau, il n'y a plus rien. Il comprend que la mort n'a rien emporté. Il comprend que la vue du cadavre de son Seigneur ne lui apporterait rien, parce que dans le fond, l'essentiel de ce qu'a été et de ce qu'est le Christ ne réside pas dans son corps, dans la couleur de sa peau, dans la longueur de ses cheveux, dans la façon dont sa barbe était taillée, dans le fait de savoir s'il portait des sandales ou autre chose. Et donc, effectivement, il voit qu'il n'y a rien à voir. Et le grand message de Pâques, ce n'est pas les apparitions, c'est le tombeau vide. C'est justement l'abandon, je dirais, du corps du Christ et de comprendre que, parce que précisément il n'y a rien à voir, il y a une autre quête à avoir et qu'il faut trouver un autre mode de présence que celui du cadavre. Alors ça, ça n'est pas évident. Je vous le disais, nous voulons tous du visible et même notre foi réclame des gestes. Notre foi réclame, comme Thomas, des symboles, des signes, des objets, des lieux, et nous voulons toujours que notre foi puisse se raccrocher au visible. Et les protestants, depuis toujours, n'ont jamais tellement aimé le visible. Et dans la question de la foi, ils ont toujours pensé que le visible était dangereux parce qu'il risquait de nous distraire de l'essentiel qui était invisible. Et donc, normalement, dans un temple, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de décoration. Et c'est tout juste si aujourd'hui on a mis un bouquet de fleurs, mais ce n'est pas l'objet. L'objet de la foi n'est pas dans le visible, il n'est pas dans les décorations, il n'est pas dans les belles églises, il n'est pas dans les beaux temples ou dans je ne sais quoi. L'objet de la foi, il est au-delà de tout cela, dans une sorte de transcendance. Et tout le visible ne risque que de nous détourner de l'essentiel et de nous faire croire qu'il y aurait dans le visible quelque chose d'important. Le visible nous tourne l'esprit du mauvais côté. Alors à Pâques, il y a une invitation à purifier notre foi, à la débarrasser le plus possible, je dirais, de tout ce qui pourrait l'encombrer d'un point de vue matériel, et pour essayer de trouver la religion, je dirais, la plus épurée possible et la plus dégagée qu'il est possible du visible, pour arriver à une religion des yeux, du cœur et non des yeux. L'important, ce n'est pas ce que l'on voit. L'important, c'est ce que l'on croit au fond de son cœur. L'important, ce n'est pas le visible et le matériel, c'est ce que l'on a au fond de soi, sa conviction intime, les valeurs dans lesquelles, par lesquelles l'on vit, l'idéal qui nous anime et l'espérance qu'il y a au fond de nous. C'est cela l'essentiel. Alors Pâques fait ce travail, et je vous disais que ça n'est pas facile, ça n'est pas naturel. Mais en même temps, je crois que la religion n'est pas là pour encourager le naturel. Donc oui, nous cherchons tous du visible, mais par pitié que la religion humaine ne tombe pas dans ce panneau, je dirais, d'être à la suite de ce que demande le bon peuple. La religion n'est pas là pour suivre le désir du bon peuple, elle est là pour l'attirer ailleurs. Et donc il faut qu'elle soit un peu contrariante. Donc oui, vous me direz, la foi calviniste est un peu trop dépouillée. Oui, c'est trop dépouillé, mais c'est pour cela peut-être qu'elle peut nous permettre d'avancer, parce que nous privant du visible et de la présence, il nous invite à chercher Dieu dans l'absence. Comme les disciples, découvrant que le corps avait été enlevé, que le corps de Jésus était disparu, sont contraints de découvrir un autre mode de présence du Christ. Je vous disais que les disciples eux-mêmes auront du mal. Et on le voit, entre le temps de Pâques et la Pentecôte, on voit tout ce travail difficile. Les disciples privés de l'objet de leur foi, privés de leur sauveur visible et concret, doivent découvrir que l'essentiel est invisible pour les yeux. Ils doivent découvrir que leur Dieu, il est parole et qu'il est seulement parole, qu'il est parole d'évangile médité, parce qu'il est une parole que l'Esprit susurre dans leur cœur. Alors donc, ils doivent apprendre à voir les choses autrement. Et il ne s'agit pas ainsi de voir pour croire, mais je dirais plutôt au contraire qu'il s'agit de l'inverse. C'est-à-dire, je dirais plutôt qu'il faut croire pour voir. Parce que l'essentiel est, je vous disais, d'une autre nature. Il faut croire pour être capable de voir l'essentiel, voir cet invisible, voir ce que l'on recherche et qui justement n'est pas de l'ordre du matériel. Et c'est par la foi que l'on est capable de voir ce qui échappe aux autres, par la foi que l'on est capable de tourner son esprit vers quelque chose qui est tellement difficile à saisir qu'il échappe à celui qui reste enfermé dans le visible. Il faut croire pour voir, ça c'est vrai dans tous les domaines, et même d'ailleurs dans notre vie concrète. L'essentiel ne peut être vu que si on le cherche, que si on y est attentif, sinon on passe à côté. Et la foi, c'est une quête. La foi, c'est de tourner ses yeux dans une direction en se disant « là, il y a quelque chose d'important, d'essentiel, de vital, de fondamental, et c'est ça que je cherche, c'est ça que je veux apprendre à voir. » Et progressivement, on peut apprendre à le voir avec le cœur. C'est pourquoi, peut-être, Jésus a raison de dire à Thomas « toi, tu as cru parce que tu as vu. Tu as cru quoi ? Tu as cru que c'était bien moi parce que tu as vu les plaies. Mais ça n'a aucun intérêt. » Quel est l'intérêt de revoir Jésus physiquement vivant? Aucun. C'est pour ça qu'il dit « heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». Parce qu'au moins, leur foi s'attachera non pas à des détails matériels sans intérêt, mais s'attachera à l'essentiel qui est invisible pour les yeux. Il est d'ailleurs remarquable que le Christ ressuscité, d'après les récits des évangiles, n'apparaît qu'aux croyants. C'est-à-dire, c'est étonnant, si la présence du Christ ressuscité était une présence objective et matérielle, concrète, alors il apparaîtrait aussi aux pharisiens, à Hérode, à Pilate, en disant « vous voyez l'erreur que vous avez faite, comme ça aurait été spectaculaire, extraordinaire, contraignant pour la foi du monde, que Jésus se montre aux incroyants. » Mais le Christ ressuscité n'apparaît qu'à ceux qui croient. Ça, c'est assez extraordinaire. Parce qu'une fois de plus, pour voir le Christ, il faut croire en lui. Parce qu'on ne voit le Christ ressuscité que dans la foi. Ce n'est donc pas une présence objective, contraignante, mais c'est une présence qui se fait présente dans notre cœur lorsqu'on est déjà dans une quête de quelque chose d'autre et que l'on est prêt à essayer de rechercher un autre mode de présence. Lorsque l'on est capable de se détacher du matériel visible pour chercher l'invisible, spirituel et essentiel. Je vous disais que tout cela ne va pas de soi. Et pendant tout un temps, on voit les disciples perplexes dans les Actes des Apôtres. Ils sont perdus, inactifs, ils attendent, ils espèrent des apparitions matérielles, ils espèrent des interventions concrètes du Christ, jusqu'à ce qu'enfin ils comprennent que le cœur de leur foi, il n'est pas sur la terre, mais qu'il est dans le ciel. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les choses concrètes, mais il est dans le domaine des idées, dans l'invisible, dans le divin. Et ça, c'est l'ascension. L'ascension, c'est symboliquement de dire le corps de Jésus-Christ, il n'est plus là, il est dans le ciel. Il n'est plus dans le visible, il est dans l'invisible. C'est-à-dire qu'on change de mode de présence, si vous voulez, on change de registre. Alors c'est exprimé d'une façon un peu imagée, mais néanmoins ce qui est sous-jacent est tout à fait essentiel. Et puis il y a une autre étape qui doit venir. S'étant convaincu, grâce à Pâques, à la résurrection et à cette piqûre de rappel, je dirais qu'est l'ascension, s'étant convaincu que l'essentiel n'était pas sur terre mais dans le ciel, ils doivent comprendre quelle est l'importance de la terre. C'est-à-dire que la terre, le matériel, c'est un lieu d'action. Le matériel n'est pas un lieu d'espérance, parce qu'il n'y a aucune espérance à attendre des choses matérielles, mais c'est un lieu d'action et d'engagement. C'est une façon d'être présent dans le monde. Et ça, c'est le message de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le moment où les disciples arrivent, je dirais, à retricoter un lien avec le matériel et le visible. Avec Pâques et l'Ascension, ils sont détachés du visible pour être dans une sorte d'absolu de la spiritualité et de l'invisible. Ils planent en quelque sorte. Et ensuite, il faut arriver à se remettre dans une action concrète dans ce monde et trouver le rôle que peut avoir le visible. Et je disais qu'il fallait le retricoter parce que j'aime cette image des fils qui s'entrecroisent. Et il y a à la Pentecôte une chose extraordinaire. Non seulement les disciples se disent qu'ils doivent se remettre au travail, c'est-à-dire que le monde est un lieu d'action, de prédication, et il faut prêcher dans le monde, il faut annoncer les choses, annoncer le Christ, l'espérance et la résurrection. Et en même temps, ils ne le font pas tout seuls, mais ils le font inspirés par l'Esprit. C'est-à-dire que cette présence spirituelle qui vient du ciel, elle vient sur eux sur terre, et elle ne les arrache pas de la terre comme s'ils devaient monter au ciel à la suite de Jésus. Les disciples restent sur terre et c'est l'Esprit qui descend sur eux pour leur donner cette force d'agir et d'être au monde. Ça, c'est la Pentecôte. Effectivement, notre foi, elle est dans le ciel, mais notre engagement, il est sur terre. Nous adorons le ciel, mais nous agissons sur terre. L'invisible est ce qui oriente notre vie, mais le visible est ce qui lui permet de s'exprimer. On dit parfois que le principal mystère, entre guillemets, du christianisme, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est le spirituel divin qui se rend visible dans un homme. Ça, c'est bien, mais il faut comprendre aussi que le divin ne peut pas se laisser enfermer dans l'humain et que le divin ne peut pas se laisser réduire au visible et au matériel, ni dans quoi que ce soit de concret, dirais-je. Il faut comprendre que au-delà de l'incarnation, Dieu nous échappe toujours, et Dieu est toujours au-delà de toutes nos pratiques religieuses, de tous nos rites, de tous nos sacrements, au-delà de tous nos discours. Dieu ne se laisse jamais enfermer dans quoi que ce soit d'humain. L'ascension, je vous l'ai dit, peut être essentielle en ce sens. Le Jésus divin nous échappe. Sa présence réelle ne peut être qu'invisible, insaisissable, hors de toute vue, hors de tout geste matériel. Et la Pentecôte complète ce dispositif. Tout cela, ce n'est pas une raison pour se laisser évaporer dans l'invisible, pour se dissoudre dans le spirituel en restant passif. Le spirituel, l'invisible, c'est la base, c'est le fondement de toute notre foi, et c'est aussi le carburant, je dirais, la force de notre engagement dans le monde et de notre action. Ainsi donc, cet esprit qui est source de vie, cet esprit qui est l'invisible par définition, dont nous faisons notre propre quête, cet esprit, nous pouvons apprendre à le voir et à le quêter, si toutefois nous cherchons, non pas avec les yeux, mais avec le cœur, et nous pouvons apprendre à croire sans voir, ou plutôt à être capable de voir l'essentiel, parce que nous tournons notre cœur et notre esprit, notre foi dans le bon sens, dans un croire qui lui permet de retrouver l'essentiel qui est l'éternel, qui est la vie, qui est l'amour, qui est l'espérance, qui est la paix, qui est la force, qui est la joie, et qui est toute cette grâce que Dieu veut nous donner, aujourd'hui, maintenant et toujours. Amen.